L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être là comme chaque samedi 16h-18h. Notez que tout à l'heure, nous irons à Nairobi pour notre World Tour. Et puis, on s'intéressera aussi à la vision de la French Tech et des députés, tiens, avec notre rendez-vous French Tech Tour. Ce sera dans quelques minutes avec Aurore. Et puis, bien sûr, on enchaînera avec Eric Le Bourlou, la rédaction de ZeroNet.com. Pour toute l'actualité tech de cette semaine, avec pas mal d'annonces Microsoft intéressantes et le crash test d'Antoine, donc pour terminer. Mais dans l'immédiat, on va mixer lecture papier, lecture numérique, et puis voir un petit peu comment on pourrait rajouter un petit peu de social et de communauté derrière tout ça.
Tout à fait.
Avec Lila et nos invités.
C'est exactement ça, François. On va se poser la question, est-ce que croiser lecture et numérique, est-ce que la réponse n'est pas dans la communauté? On va en parler avec Nicolas Princen. Bonjour.
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 Nicolas Princen, vous êtes fondateur de Glose. David Menson, bonjour. Vous êtes fondateur de Booksup.
C'est ça, bonjour.
Alors, deux initiatives qui sont assez différentes. L'une se veut un peu, il y a un article assez élogieux vous concernant dans l'Obs qui décrit Booksup comme le Tinder des livres et Glose.
Tout un programme.
Tout un programme. Et Glose, vous nous expliquerez plus tard, Nicolas Princen, mais c'est plus ou moins à la fois une plateforme de marché, une plateforme d'achat du livre et également une plateforme communautaire et de lecture. Alors, on va commencer par vous, David Menson. Booksup, quelle était l'idée de départ, David?
L'idée de départ, c'est... C'est tout bête, c'est un jour, je suis face à ma bibliothèque qui déborde de bouquins. Et voilà, cette image m'interpelle. Et tous les jours, passant devant, je me dis, mais que faire de ces bouquins qui sont là, bloqués à prendre la poussière?
Et que vous avez lu et que personne, personne ne profite aujourd'hui.
Que j'ai lu pour partie, évidemment. D'autres que j'ai pas lu, mais qui sont là parce qu'on me les a offerts. Je les ai eus en cadeau. Ils sont arrivés là par magie. Enfin voilà, on les emprunte et ils finissent dans la bibliothèque. Et ce constat, on peut le faire à peu près partout. Chez tout le monde, il y a des bibliothèques qui débordent. Et voilà. Et petit à petit, l'idée de Booksup est née. Et on s'est dit que voilà, il fallait faire une appli mobile pour permettre aux gens d'échanger leurs bouquins. Voilà, c'est tout simple. Donc l'appli.
Donc c'est un service d'échange de bouquins. De prêt de bouquins.
En fait, on n'a pas trop brandé le service, on l'a pas trop défini justement pour permettre à nos utilisateurs de se l'approprier tel qu'ils le souhaitent.
Donnez-nous un exemple. Par exemple, je sais pas moi, comment ça fonctionne? Je vais noter tous les bouquins que j'ai.
C'est très simple. Vous téléchargez d'abord l'application sur l'App Store d'Apple, parce que pour l'instant, l'application n'est que disponible sur iOS. Ensuite.
Bientôt sur Android?
Bientôt sur Android, dès qu'on aura calé la bonne appli sur iOS, on ira sur Android. Ensuite, vous vous connectez à l'aide de votre compte Facebook ou de votre compte Twitter. Et vous allez à la recherche de votre premier bouquin que vous allez prendre dans votre bibliothèque. Vous le retournez, vous regardez où est le code barre, et vous flashez le code barre avec l'application. Et instantanément, l'appli va aller chercher toutes les informations relatives au livre, ce qu'on appelle les métadonnées. Et vous allez comme ça pouvoir constituer à la suite votre bibliothèque. Ça va très vite. On peut scanner une centaine de livres en 3-4 minutes. C'est assez.
D'accord. Donc là, je vais stocker toutes ces informations concernant les livres que je possède.
Voilà. Donc votre bibliothèque est associée à votre profil. D'accord. Vous êtes de facto géolocalisé puisque c'est une application qui permet aux gens de se prêter leurs livres. Et l'intérêt du dispositif, c'est justement qu'on puisse faire ça à proximité les uns des autres. Dans une entreprise, chez soi, dans son immeuble, dans son quartier.
Ok, donc moi après, je télécharge l'appli et je vais pouvoir chercher des bouquins?
Ouais, il y a un petit moteur de recherche à l'intérieur.
D'accord. Et si par exemple, c'est vous qui avez...
Soit vous allez regarder les booksistes qui sont autour de vous et vous rentrez dans un livre que vous découvrez, vous rentrez dans leur bibliothèque, vous dites, ah bah tiens, ce bouquin de Natacha m'intéresse particulièrement, je sollicite ce livre auprès de cette personne. Si cette personne décide d'accepter la mise en relation depuis ce livre, ça ouvre alors le canal de conversation entre nous deux et libre à nous après de nous organiser pour nous échanger le bouquin en question, les bouquins en question. L'usage qu'on observe aujourd'hui, c'est véritablement l'échange, le troc, c'est-à-dire je prends un livre chez machin ou machine, et machin ou machine, en échange, vient prendre un livre chez moi. C'est vraiment l'usage qu'on a aujourd'hui majoritairement observé dans l'application.
Je comprends pourquoi l'Obs dit le Tinder du livre. Donc on va faire des rencontres en fait, mais c'est pas fait pour ça au départ.
C'est pas une appli de rencontre. Après libre à l'Obs et à d'autres de nous qualifier comme bon leur semble et comme selon la façon dont l'appli les inspire. On est très content de la comparaison parce que Tinder c'est la success story de la rencontre mobile. On nous a aussi qualifié au moment de notre lancement au salon du livre de Airbnb des bibliothèques. Voilà, les deux comparaisons nous vont bien.
Oui, ça va. Ces deux boîtes qui ont plus ou moins bien réussi, quoi.
Ouais,
donc
voilà,
ça va.
Exactement. Et puis après, on n'invente rien de véritablement nouveau. On se rencontrait bien avant à la bibliothèque de la fac ou bibliothèque municipale. Enfin voilà, c'est la bibliothèque a toujours été par essence un lieu de rencontre.
Et ce service est gratuit ?
Ouais, le service est gratuit. Ouais.
D'accord.
Et on entend le, enfin, il le restera.
Bon, voilà, c'est comme
voilà.
Facebook en
voilà,
fait.
C'est ça.
Exactement.
C'est ça.
Mais si par exemple je vous rends pas le livre que je vous ai emprunté, comment ça se passe ? Je me retourne, je...
En fait, comme je vous le disais en préambule, on a vraiment très peu brandé le service. Donc, personne, à aucun moment dans l'application, on dit qu'on est là pour se prêter, s'échanger.
Oui, vous n'êtes pas tiers de confiance.
Non,
en fait.
On n'est pas tiers de confiance.
Vous mettez en relation
on est
et
vraiment
après...
une plateforme de mise en relation.
Okay.
Et les gens font ce qu'ils veulent. Et en fait, on s'est dit qu'un livre, dès lors que vous l'avez prêté, dès lors que la personne à qui vous l'avez prêté l'a lu, il ne vous appartient plus. Il appartient un peu à la personne qui l'a lu. Et donc, enfin voilà, on a tous pesté contre les livres qu'on ne revoyait jamais, mais en même temps,
on les a lus. Ouais.
Les a lus.
C'est rare de relire un livre.
Voilà, c'est très rare. C'est très rare.
Donc, Books Up, le Tinder des livres. Pas mal.
C'est
une autre.
Ouais. Bon, si vous avez des couples qui se marient grâce à votre appli, tenez-le au courant.
On observe déjà des...
D'accord, des rapprochements.
Voilà, des rapprochements, ouais.
D'accord.
Alors, une autre initiative qui mise également sur la communauté, c'est la plateforme Glose. Nicolas Princen, vous allez nous en parler. Alors, Glose, c'est une plateforme à la fois de lecture numérique, de recommandations et d'achat, c'est ça ?
Oui, absolument. C'est-à-dire que Glose, c'est un site internet ou une application mobile que vous pouvez télécharger sur iOS ou sur Android et qui vous permet de découvrir, d'acheter et de lire des livres numériques sur tous vos supports digitaux, c'est-à-dire votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Et ce qui est spécifique en effet, c'est qu'il y a des fonctionnalités communautaires. C'est-à-dire que quand vous lisez sur Glose, non seulement vous pouvez lire le texte donc parmi la liste de 500 000 bouquins qu'on a, mais vous pouvez aussi très facilement interagir avec le texte, rajouter des annotations que vous pouvez ensuite partager avec d'autres lecteurs. Puisque, en fait, Glose est construit comme un réseau social. Vous créez votre profil, vous trouvez vos livres, vous commencez à les lire. Et ensuite, vous pouvez échanger et suivre d'autres lecteurs pour voir ce qu'ils lisent et ce qu'ils écrivent aussi dans les notes qu'ils prennent à l'intérieur des livres.
Alors vous, ça marche très bien. Il me semble que vous avez un catalogue de à peu près 500 000 ouvrages. C'est ça. On a vu cette semaine la fermeture d'Oyster qui misait sur le streaming du livre. Vous, c'est un modèle que vous laissez totalement de côté pour le coup.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut préciser, en effet, on a un peu plus d'un demi-million de livres en catalogue aujourd'hui. Donc, vous pouvez accéder sur votre smartphone en 30 secondes. Et d'ailleurs, tous les livres sont disponibles en lecture gratuite pour le premier chapitre. Donc, c'est très facile de découvrir un livre, commencer à lire et décider ensuite de l'acheter. Faut préciser aussi que pour l'instant, on est en anglais, c'est-à-dire que les livres sont en anglais et on sortira en version française avec un catalogue français très conséquent l'année prochaine. Mais en effet, nous, on a choisi un modèle très simple qui est le modèle de la vente à l'unité. Vous venez, vous commencez à lire un livre gratuitement. Si vous voulez l'acheter, ben vous l'achetez. Ça prend deux secondes. Et de ne pas faire un modèle d'abonnement, qui est en effet le modèle qu'on a vu apparaître récemment ces deux dernières années, notamment aux États-Unis avec des entreprises comme celle que vous avez citée, Oyster. On n'a pas adopté ce modèle-là parce que c'est un modèle qui est très compliqué et qui est souvent très difficile pour l'entreprise, mais aussi surtout pour le lecteur. Parce que quand le lecteur paye 10 dollars par mois, par exemple, pour avoir accès à un grand catalogue de livres, il trouve très difficile le fait de ne pas trouver le livre qu'il cherche. Et c'est souvent le cas parce que les modèles d'abonnement s'appuient en général sur des catalogues un petit peu vieux où les livres ont au minimum 18 mois d'âge. Donc le dernier bouquin, le dernier Mark Levy, le dernier Welbeck, vous n'allez pas le trouver sur ces services-là. C'est pour ça que nous, on s'est focalisé sur un super catalogue dans lequel il y a évidemment des grands classiques, mais aussi toutes les nouveautés dont on entend parler dans l'actualité.
Et puis j'imagine que ça doit aussi faciliter votre rapport avec les éditeurs. J'imagine que les grandes maisons d'édition sont plus enclins à vous ouvrir leur catalogue aussi.
Bah oui, en tout cas, ce qu'on partage avec les maisons d'édition et puis avec les auteurs qui sont les gens qui écrivent, c'est tout simplement l'envie d'encourager les gens à lire plus. Vous savez, Glos, ça vient d'un constat qui était d'ailleurs le mien dans ma vie de tous les jours, c'est que c'est assez difficile de lire, c'est-à-dire de trouver le temps, de trouver l'énergie. C'est pas comme écouter de la musique ou regarder une vidéo, on est actif quand on lit. Du coup, la question qu'on s'est posée chez Glos, c'est comment est-ce qu'on peut rendre la lecture un petit peu plus encourageante, un petit peu plus intéressante, un petit peu plus incitative, pour que les gens puissent, sur leur mobile, en deux minutes, commencer à lire un livre ou continuer à lire un livre et soient encouragés pour le faire. Et je pense que ça, c'est un élément qu'on a en commun, visiblement, avec d'autres projets, comme Booksop, c'est que la communauté, finalement, peut nous encourager à lire plus, à aller plus en profondeur dans ce qu'on lit et à partager plus. Et je pense que ce qui est important, notamment à l'ère du mobile et des réseaux sociaux, où on échange tous en permanence les uns avec les autres, c'est d'amener un petit peu du contenu qu'on peut trouver dans les livres pour mettre ça au milieu de nos conversations et les rendre parfois plus intéressantes, parfois plus inspirantes, et en tout cas partager ce qu'il y a de mieux. Et il y a énormément de très très bonnes choses dans les livres.
Alors, j'imagine que c'est un service qui est absolument idéal, qui pourrait s'adresser aussi bien aux étudiants, mais également aux entreprises, aux salariés en formation. C'est idéal, ce système d'annotation.
Oui, c'est vrai que quand vous amenez des gens et que finalement vous avez une communauté de gens qui lisent le même livre et qui, en lisant le même livre, peuvent partager des notes dans la marge, très simplement, eh bien, ça plaît à tout un tas de scénarios. Ça peut plaire à un groupe de lecture, à un book club, par exemple, de gens qui sont tous fans du même auteur et qui lisent le livre en même temps, ou par exemple à une famille. Mais il est vrai qu'on a vu un grand intérêt de la part d'entreprises et d'universités. Et on travaille notamment avec des universités comme Harvard aux États-Unis ou HEC en France, puisque là, l'idée, c'était, mais finalement, on lit tous le même manuel scolaire, on lit tous la même étude de cas, ou on lit tous le même livre de business, en l'occurrence. Est-ce qu'on peut, grâce à Glos, non seulement le lire, mais partager des notes entre nous, entre élèves et professeurs, pour en quelque sorte mettre en action, rendre vivante cette lecture et en tirer un petit peu plus? Et ce sont des cas qui marchent extrêmement bien. On voit que l'engagement est très fort sur des cas comme ça et que la satisfaction est plus grande. C'est plus intéressant que de lire le livre dans son coin.
D'accord. Merci beaucoup, David.
Non, Nicolas.
Pardon. Merci Nicolas, pardon.
Et, avec plaisir.
Et bon vent à Glos, donc, et à Booksop aussi qu'on a découvert là cette fois-ci avec David. Merci beaucoup.
Merci à tous deux.
Et on revient dans un instant pour la suite de cet atelier. Ce sera notre World Tour direction Nairobi et puis notre French Tech Tour. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans quelques instants, ça sera notre French Tech Tour, Aurore Géraud. Et nous allons, à cette occasion, rencontrer Laure de la Rodière, qui est députée maire d'Eure-et-Loire, parce que les députés ont leur mot à dire concernant la French Tech.
Et concernant les startups, leur vision.
Et bien sûr, voilà. Donc on va en parler dans quelques instants. Mais avant d'aller nous intéresser à cette French Tech vue par les députés, eh bien, nous allons aller à Nairobi pour notre World Tour et parler des success stories de Nairobi, Aurore Géraud.
Oui, nous sommes aujourd'hui avec Grégory Pepper, qui est Regional Manager à SeedStar World. Grégory, bonjour.
Bonjour.
Alors, Nairobi, c'est un hub tech en puissance, notamment on voit le choix de Microsoft de dévoiler en avant-première son Windows 10 dans la capitale kenyane. En début d'année, cette ville a été considérée comme l'une des plus intelligentes d'Afrique. Est-ce que vous avez pu, vous, lors de l'événement SeedStar World, constater cet engouement concernant le secteur du numérique?
Alors oui, je pense qu'on peut vraiment dire que l'engouement, nous l'avons remarqué durant l'événement. C'est vrai que localement, on voit vraiment que l'écosystème est très développé. Donc autant en termes d'espace de travail commun, les coworking, comme on l'appelle, que des incubateurs ou d'autres accélérateurs qui sont là pour le soutien des entrepreneurs. Ce qu'on voit aussi, c'est le nombre conséquent d'événements qui sont là pour soutenir la communauté de développeurs, de codeurs et d'entrepreneurs localement. Donc vraiment, si ce n'est pas chaque semaine, c'est deux, c'est trois fois par semaine que les entrepreneurs, les développeurs se rendent compte pour discuter entre eux, partager et s'entraider pour pouvoir amener la communauté à de nouveaux horizons entrepreneuriaux.
Il y a de nombreuses success stories. On pense notamment à M-Pesa qui a pour origine en fait Nairobi. Est-ce que vous voyez les startups marcher sur les pas de M-Pesa, notamment dans le domaine de la fintech?
Alors oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une tendance que nous avons vue localement. On voit des entrepreneurs qui font face à d'autres facettes du problème ou de la solution de la technologie financière. On voit par exemple des personnes qui s'attaquent à des marchés niches, comme par exemple la technologie financière pour les étudiants, pour les jeunes. D'autres personnes encore qui développent des solutions similaires à Coin aux États-Unis, donc une carte de crédit en hardware qui s'attache en Bluetooth avec le téléphone portable sur lequel nous pouvons mettre nos cartes de crédit et de débit, ou encore même des personnes qui développent des petites tablettes sur lesquelles on peut centraliser tous nos informations et nos besoins bancaires, que ce soit de payer l'électricité, l'éducation ou encore regarder son compte en banque ou faire des virements bancaires.
Vous parlez du hardware, notamment dans les success stories, on a également Brick. Est-ce qu'il y a une poussée, est-ce que vous constatez une poussée du hardware plus que le software?
Je ne dirais pas non qu'il y a une poussée plus forte pour le hardware. Je dirais que c'est en effet actuellement un phénomène qui va plutôt vers le software. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui vont faire des applications ou des choses plutôt en ligne, simplement parce que le financement initial est souvent beaucoup, beaucoup plus bas. Par contre, ce que l'on voit, c'est des nouveautés, par exemple Gearbox, qui est un coworking ou un espace de travail commun, où ils mettent à disposition des entrepreneurs des imprimantes 3D ou d'autres installations qui permettent aux gens de commencer à développer du hardware. Donc même si le software est clairement en avance, ou en tout cas est plus utilisé dans l'entrepreneuriat, on voit vraiment l'effort et l'accélération dans le côté plutôt hardware.
Et en ce qui concerne les applications, je suppose que c'est plus, on attend plus de choses qui s'appuient sur le SMS.
Alors c'est vrai qu'on en voit, on en voit même beaucoup. Mais ce qu'il faut se dire en fait, c'est qu'actuellement, le pays a environ 15-20% de pénétration de smartphones. Mais cette pénétration est en accélération très forte. Donc on voit vraiment deux tendances. La première, c'est la tendance des entrepreneurs plutôt en zone urbaine qui vont développer des applications sur les smartphones qui vont être, par exemple, pour la livraison de nourriture ou bien pour appeler un chauffeur privé. Mais c'est vrai que dès qu'on part en zone rurale, où on aura beaucoup plus de personnes qui n'ont pas de smartphone, les solutions qui sont mises en place sont clairement adapté pour les SMS ou le USSD. Mais ces solutions-là sont très souvent dans les domaines de la santé, de l'agriculture ou encore de l'énergie. Donc c'est vrai que l'on voit beaucoup d'USSD, mais en tout cas la tendance va de plus en plus vers le smartphone. Et même nous, lors du concours, on voit vraiment que la majorité font des applications pour smartphone.
Eh bien merci beaucoup Grégory.
Merci Grégory Pepper, donc Regional Manager à Seedstar World.
Et on enchaîne donc avec notre French Tech Tour. Quelle vision de la French Tech ont les députés? On voit ça, Aurore Géraud, avec vous et votre invité.
Pour ce French Tech Tour, nous accueillons aujourd'hui Laure de la Rodière, qui est députée d'Eure-et-Loire et spécialisée dans les enjeux du numérique à l'Assemblée nationale. Laure, bonjour.
Bonjour.
Le 30 septembre dernier, l'Assemblée nationale, la Commission des affaires économiques plus particulièrement, a reçu 5 startups, notamment Withings, Sigfox, BlaBlaCar, Deezer, Litchi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la perception actuelle que peuvent avoir les députés de ce type d'entreprise?
La perception actuelle, en fait, est assez faible parce que les députés rencontrent peu de startups et encore moins, je dirais, des startups qui ont réussi comme les 5 cités. Les députés, de façon générale, connaissent peu les modèles économiques sous-jacents aux startups. Alors, nous avions fait avec Corinne Herrel, députée PS des Côtes d'Armor, une mission d'information sur le développement économique, développement du numérique. On a remis notre rapport l'année dernière. Ça a permis de faire une première étape de pédagogie à la fois sur les enjeux du numérique, sur les enjeux de développement économique, mais aussi sur la façon dont sont construits leurs modèles économiques, sur la façon dont elles sont financées, avec le rôle particulier des venture capital, et tout ce modèle, en fait, cet écosystème avait été déjà présenté aux députés. Mais force est de constater qu'ils connaissent pas beaucoup ce domaine-là.
Céline Lazorte, qui est donc fondatrice de Litchi, parlait d'un environnement en mouvance qui n'est pas accessible pour une start-up. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Moi, je pense qu'après un programme, quand vous faites une campagne pour la présidence de la République, vous annoncez un projet présidentiel. Ce projet, au bout de 6 mois à 1 an, il est déroulé dans la loi. C'est fait. Après, on devrait s'astreindre à ne plus légiférer, à faire, nous, le contrôle de l'action du gouvernement, à regarder si ce qui a été voté est pertinent, à évaluer, mais à arrêter de changer les règles en permanence parce qu'on crée une incertitude économique, on envoie des signaux négatifs vis-à-vis de certains environnements qui est défavorable au développement économique en général et particulièrement au développement des start-up.
Alors, quelles sont les solutions qu'on peut apporter ? Est-ce que c'est d'abord, dans un premier temps, un marché unique européen ?
C'est pas dans un premier temps, c'est en parallèle. Il faut porter nos exigences de normes au niveau européen avant de les adopter en France. Et quand on les adopte en France, il faut pas durcir la règle européenne. C'est extrêmement important d'avoir un terrain de jeu pour nos start-up qui soit au niveau de l'Europe, avec 500 millions d'habitants, consommateurs, qui ont plutôt un pouvoir d'achat. Ça va permettre l'éclosion plus rapide, en fait, de start-up qui pourront rivaliser avec les géants de l'Internet américains. Aujourd'hui, nous avons, ils ont tous exprimé, les cinq start-upers qu'on a auditionnés à la Commission Affaires économiques, ont tous mentionné la difficulté pour eux à avoir 28 réglementations différentes en Europe. Donc il est extrêmement important qu'on puisse avoir un marché européen unifié dans le domaine économique.
En attendant que quelque chose soit fait au niveau européen, est-ce qu'il y a des actions qu'on peut attendre en France ?
Déjà, ne pas durcir des réglementations franco-françaises. Alors, c'est pas une action, mais quand le gouvernement actuel propose de légiférer sur les données personnelles, je pense que c'est pas une bonne chose pour le développement de nos start-up. Et je pense qu'il ne protège nullement les Français en faisant ça, puisqu'il met une règle qui n'est applicable qu'aux entreprises françaises. Or, aujourd'hui, on sait bien que 90-95% des services qu'on utilise sur Internet sont fournis par des géants de l'Internet américain. Donc, ces règles ne vont pas s'appliquer aux géants américains. En revanche, elles vont handicaper nos start-up françaises. Donc, c'est un contresens absolu avant l'adoption d'une règle au niveau européen. Parce qu'au niveau européen, on aura les moyens en poids économique de peser sur les décisions des géants de l'Internet. Ce qui n'est pas vrai pour la France isolée ou pour l'Angleterre de façon isolée.
Est-ce que vous pouvez faire un bilan un peu de cette intervention du coup des cinq start-up ? Est-ce que la pédagogie était là ? Est-ce que la sensibilisation aux enjeux du numérique a touché les députés selon vous ? Est-ce que quelque chose s'est déclenché ?
C'était une réunion de commission de très haute qualité. Les intervenants ont pas du tout été langue de bois. Ils étaient très directs, très sincères. C'est assez rare. Vous savez, quand on a le président d'un grand groupe industriel qui vient nous voir, il a tellement de relations avec les députés déjà établis, avec le gouvernement, qu'il se sent moins libre de parole que ne l'étaient ces cinq PDG fondateur de start-up. Et donc ça, c'était très rafraîchissant. C'est très rare à l'Assemblée nationale d'avoir ça. Et tous mes collègues, tous de droite comme de gauche, ont apprécié ça. Deuxièmement, ils ont été, comme je dis, très libres de parole. Et ils ont dit des choses qui pouvaient être très choquantes pour certains députés sur des mesures qui avaient été prises par tel ou tel gouvernement. Et en fait, il n'y a eu aucune réaction négative. Il y avait une écoute de très bonne qualité de la part des députés. Alors, espérons que ça puisse porter des fruits dans la réflexion qu'on va avoir sur d'autres textes de loi. Je suis un peu dubitatif quand même, parce que je sais, par expérience personnelle, qu'il faut faire de la pédagogie, à nouveau de la pédagogie, encore de la pédagogie, et puis après ça, voilà, on arrive à convaincre les collègues, mais c'est souvent très long.
Merci Laure de la Rodière, donc qui est députée d'Eure-et-Loir.
Alors vous restez avec nous, la suite de cet atelier dans un instant. Direction la rédaction de Zeronet.com dans une minute, avec évidemment Éric Le Bourlou qui sera là. Et puis on terminera cet atelier par le crash test d'Antoine et l'alphabet de Lila Megraou. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Voilà, c'est l'atelier numérique sur BFM Business. Crash test d'Antoine dans quelques instants. Mais avant tout cela, direction la rédaction de Zeronet.com comme chaque samedi. Vous le savez, Zeronet.com, le premier site d'actualité high-tech en France, avec Éric Le Bourlou, le rédacteur en chef du pôle Actu. Salut Éric.
Bonjour.
Alors Éric, pas mal de news, grosse semaine d'actualité high-tech. Quand même. Ouais, là franchement, on en a eu pour notre argent. Et on va commencer par Microsoft qui nous a offert une petite keynote. Après Apple, après Google, c'était le tour de Microsoft. Une keynote qui franchement nous a agréablement surpris.
Ouais, et même carrément bluffé, on va dire, parce que Microsoft là a frappé très fort. On a eu effectivement, comme vous le disiez, la keynote Apple, l'iPhone 6S, la keynote Google avec des nouveautés produits, des nouveaux smartphones, nouvelles tablettes, etc. Et Microsoft cette semaine, et Microsoft, on va dire, on les a un peu enterrés. Hein. On va être clair dès le début, ils ont fait très très fort avec cette présentation, ce show high tech. Hein. On sait que c'est à chaque fois ça, c'est entre la conférence de presse et le spectacle, hein, faut bien dire ce qui est.
Évidemment.
Mais ils ont su en fait présenter leur show, leur spectacle de manière bien plus intéressante que leurs concurrents. Et ils l'ont fait.
En fait, voilà, c'était parce que comme vous le disiez, c'est un vrai show en fait, ce rendez-vous. Et c'était construit comme un show. En fait, il y avait énormément d'informations, tout
exactement.
Était très
très ramassé, voilà, très rassemblé. Ramassé. Et c'était spectaculaire.
Ouais.
Parce que c'est ça aussi, il faut que ce soit spectaculaire.
Ouais.
Et ça l'a été. Ils ont commencé évidemment par parler de leur HoloLens, leur casque un peu fou qui va bientôt sortir. Hein, parce qu'ils ont annoncé qu'il y aurait une version développeur qui sortirait l'année prochaine. Ils ont donc annoncé une version à $3000 pour que ce casque qui va nous permettre de mélanger réalité et vie digitale, on va dire, des contenus digitaux et des contenus réels. Mais ils ont surtout présenté de nouveaux produits. Alors je sais pas par quoi on commence, il y en a beaucoup, mais ils ont d'abord présenté des nouveaux smartphones, alors aussi un bracelet connecté. Alors
ouais, on va passer vite. On va faire crescendo, hein, voilà. Eric. On va commencer par le bracelet. Voilà, un bracelet connecté qui met à jour, voilà,
exactement.
Tout ce que font les bracelets
tout
connectés.
Tout ce que font les bracelets connectés, mais qui est quand même intéressant puisqu'il a des fonctions de montre connectée aussi.
Oui.
On peut avoir ses messages, on peut utiliser Cortana avec. Donc, c'est entre le bracelet et la montre connectée, en fait, qui s'appelle Microsoft Band. Bon, ça, c'était un peu le début.
On ne sait pas s'il sortira en France d'ailleurs, hein, ce jour.
On ne sait toujours pas, ouais. Ensuite, ils ont enchaîné avec leur nouveau mobile. Alors, c'est des Lumia, hein. Alors, c'est des mobiles Windows Phone. Pour l'instant, ça se vend pas beaucoup. Mais maintenant, il y a Windows 10, qui est en fait le même système qui marche sur un ordinateur, qui marche sur un smartphone, qui marche sur la Xbox demain. Et effectivement, du coup, ces Lumia, ce sont les premiers smartphones qui vont tourner sous Windows 10. Et ils sont plutôt excellents d'un point de vue spécificité technique. On va pas revenir là-dessus, mais 20 mégapixels, 3 gigas de RAM, etc., etc. Mais surtout, ce qui a été intéressant, on connaissait un petit peu parce que ça allait fuiter toutes ces informations. Mais ce qui est intéressant, c'est que Microsoft n'a pas spécialement insisté là-dessus. Ils ont plutôt dit, voilà ce que vous pouvez faire avec. Est-ce que vous pourrez faire demain avec ces...
Et là, ils nous ont bluffé.
Et ouais, effectivement, ils nous ont bluffé puisqu'en fait ces smartphones, et ce sont de vrais ordinateurs. Ils ont montré que on pouvait les brancher avec un petit appareil pour les brancher à n'importe quel écran puis utiliser une souris avec. Donc vous avez un smartphone, vous avez aussi un ordinateur. C'est une fonction qui s'appelle Continuum et qui est présente dans Windows 10. Et ils ont fait toute leur démo là-dessus et ça a bluffé effectivement à la fois l'assemblée et nous-mêmes qui regardions cette conférence aussi. Et effectivement, on se dit voilà un nouvel usage que personne n'a montré jusqu'à présent. Il y avait déjà eu des essais chez Ubuntu, etc. Mais voilà, Microsoft le fait et ce sera dans les smartphones qui sortent là dans très peu de temps.
Alors c'est génial parce que vous vous dites, ça sert à quoi d'avoir un petit ordinateur sur son smartphone? Mais par exemple, imaginez, vous êtes à l'hôtel, vous n'avez pas votre PC, vous avez votre smartphone, vous le branchez sur l'écran de votre... Alors il faut
exactement.
Avoir le petit hub.
Il faut avoir un
clavier et une souris. Bon,
exactement.
On n'a pas forcément dans notre poche
c'est vrai.
Toujours un
c'est
clavier
vrai.
Et une souris. Mais à partir de ce moment-là, vous branchez tout ça sur un écran et vous avez un vrai petit PC
exactement.
Avec une suite Office complètement utilisable, etc.
Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment nouveau. C'est un nouvel usage que propose Microsoft pour les smartphones. Et ça, c'est grâce à Windows 10 qui, on le rappelle, effectivement, est un OS qui unifie en fait tous les appareils. Et ça, c'est leur grande force. Et c'est ce qu'ils ont montré aussi hier.
Alors, deux Lumia, présentés.
Donc un avec un écran 5,2 pouces, un autre avec un écran plus grand. Et il y a aussi un autre Lumia qui va sortir un peu plus tard, qui sera une Lumia d'entrée de gamme. Mais ce sont des appareils très haut de gamme qui sont d'un point de vue technique aussi assez excellent en fait.
Assez intéressant au niveau de l'appareil photo, de l'écran, etc.
Voilà.
À suivre donc.
Ouais. Alors ils ont enchaîné et ils ont commencé par parler de Surface. Alors Surface, c'est leur tablette convertible, on va dire. Ils ont appelé ça le PC, la tablette qui remplace votre ordinateur. C'était leur slogan marketing, oui, on va dire. Et ils ont sorti une nouvelle version de Surface, la Surface Pro 4, qui est une évolution finalement de ce qu'on avait déjà vu et qui est assez intéressante, notamment pour les gens qui utilisent beaucoup le stylet, puisqu'il y a un nouveau stylet qu'on peut utiliser, beaucoup plus de niveau de pression, donc c'est beaucoup plus facile à utiliser. Et il y a aussi un nouveau clavier qui va faciliter en fait la prise de notes. C'était un petit peu un problème de Surface, le clavier était pas très agréable, et là ils ont enfin corrigé ces problèmes. D'autre part, elle est plus puissante, plus légère, etc. Voilà. Un écran plus grand.
Une évolution de la Surface Pro 4, de la Surface Pro 3.
Voilà. Surface Pro 4.
Toujours plus puissante, toujours plus fine, etc.
Voilà.
Et puis,
voilà.
One More Thing de Microsoft.
Le One More Thing qui était vraiment, vraiment surprenant, ouais, et effectivement.
Et qui n'avait pas fuité, parce que toutes les autres informations dont on vient de parler. Ouais. Elles ont fuité sur le web.
Exactement.
Celle qui a été annoncée là, personne n'était au courant.
Personne n'était au courant, et c'est vrai que c'était un produit très surprenant, puisque Microsoft a tout simplement présenté ce qu'il appelle sur Facebook, qui est un ordinateur portable, son premier ordinateur portable finalement.
40 ans après les débuts de Microsoft.
Exactement. Microsoft lance donc un PC. Évidemment, Surface, vous pouvez dire que c'est un PC. Là, c'est un vrai PC portable, mais c'est un PC portable déjà qui est très puissant. Hein. Ils ont carrément dit que c'était le portable 13 pouces le plus puissant de l'univers, je crois. Ils l'ont dit.
Mais
il y avait aussi toute cette mise en scène excellente avec un homme qui s'appelle Panos Panay.
Ouais, c'est lui qui est très doué.
Qui est l'inventeur du concept de Surface et qui a présenté.
Mais qui est un très bon showman aussi.
Qui est un excellent showman, limite vendeur de voitures, un peu too much des fois. Mais assez impressionnant dans sa façon de croire à son produit.
Il a quelques gènes de Steve Ballmer.
Oui, tout à fait. Il a récupéré un peu Steve Ballmer, mais en étant parfaitement convaincant. Mmh. Et il a effectivement présenté ce Surface sur Facebook, qui est un portable très haut de gamme. Donc là, Microsoft va clairement jouer dans les terres d'Apple et de son MacBook. Ils veulent donner envie d'acheter ces produits, et c'est plutôt réussi, parce que non seulement donc ce portable est puissant et en plus original, c'est-à-dire que c'est un peu comme Surface, vous pouvez détacher l'écran pour avoir en fait une tablette très fine et très grande avec un superbe écran, vous pouvez le rebrancher, le mettre dans tous les sens pour faire un convertible. Donc c'est un portable qui est puissant design et très joli. Ça c'était effectivement très surprenant de voir Microsoft se lancer dans ce créneau qui est pourtant celui qui connaissent très bien, puisque ça fait très longtemps qu'ils sont dans le monde du PC. Hein,
ouais, ça doit grincer les dents du côté de chez HP, Acer, Asus, etc. Non?
Et c'est possible, parce qu'en tout cas, ce qui se passe là, c'est qu'ils ont montré, voilà ce qu'on peut faire maintenant aussi à nos partenaires, de montrer que les PC, c'est pas que des trucs à 300€, parce que par contre, sur Facebook, il est pas donné.
Plus de 1600€
à partir d'eux en France, et ça peut aller en États-Unis jusqu'à 2700$, donc c'est très cher. Bon. En tout cas, mission réussie pour Microsoft sur cette keynote.
Autre fait d'actualité de cette semaine qui s'est déroulé en France, à Bordeaux, Cocorico, c'était un grand rendez-vous de la voiture autonome, avec énormément de constructeurs et d'équipementiers français mais aussi étrangers, qui ont présenté leur état de l'art dans le domaine de la voiture autonome, et on a vu des choses étonnantes, Eric.
Et on a vu notamment une des premières voitures autonomes made in France, Cocorico, puisque c'est le groupe PSA qui a fait le voyage, de Paris à Bordeaux à bord d'une C4 autonome. Donc c'est-à-dire que la voiture est partie de Paris. Alors elle n'était pas autonome sur tout le trajet. Dans Paris, elle n'est pas autonome. En fait, c'est sur l'autoroute où vous pouvez lâcher le volant. Et là, la voiture, en fait, se débrouille toute seule. Parce qu'ils n'ont l'autorisation que sur autoroute. Ils n'ont pas eu l'autorisation de faire des tests
sur le périphérique ou dans les rues
de Bordeaux, etc. Mais de Paris à Bordeaux sur l'autoroute.
Ce qui est déjà pas mal.
Et ce qui pourrait, pour les conducteurs, être une révolution, plus avoir à se préoccuper du volant pendant qu'on est sur l'autoroute. Donc effectivement, cette voiture a sans problème été de Paris à Bordeaux pour aller à ce fameux salon. Et donc c'est plutôt une belle réussite, on va dire. Et on est bien content de voir qu'il n'y a pas que Google qui aux États-Unis travaille sur la voiture autonome, qu'il y a aussi beaucoup de marques françaises. On cite PSA, mais il y a aussi Valeo, et il y a aussi plein de gens qui travaillent sur la voiture autonome en France.
On sait quand ça va sortir et à quel prix ou pas?
Pour l'instant, on n'en est que aux tests, mais toutes ces technologies vont en fait arriver progressivement dans les voitures. Vous allez pas avoir demain une voiture autonome, mais vous allez par contre progressivement, comme on commence déjà à le voir avec les aides à la conduite, le parking assisté, etc. Des voitures qui vont de plus en plus arriver vers une autonomie.
Très bien. Voilà. Passionnant, hein, tout
ouais,
ça. Hein.
Ouais, ouais.
Voilà, la voiture connectée et autonome à découvrir sur 0net.com et sur 0net TV ouais, aussi, avec une multitude de reportages qui vous montrent un petit peu où on en est en matière de voiture autonome. 0net TV.com. On va parler maintenant d'Apple. Apple qui a laissé passer une appli assez étonnante sur l'App Store que tout le monde peut télécharger à partir du moment où on a un iPhone. On en parlait d'ailleurs la semaine dernière.
On parlait
des bloqueurs de publicité. Et bien là maintenant, grâce à cette appli, on n'a plus aucune pub sur l'iPhone.
Ouais, alors c'est très surprenant. On savait que Apple avait depuis iOS 9 autorisé les bloqueurs de publicité dans Safari, son navigateur. Mais là, ça va beaucoup plus loin puisque cette application qui s'appelle Bean vous permet de bloquer les publicités sur l'ensemble de l'iPhone, y compris sur les applications. On sait que les publicitaires utilisent beaucoup les applications maintenant et les développeurs pour se payer utilisent la publicité dans les applications. Eh bien, Bean vous bloque toutes ces publicités. Absolument, voilà.
Donc, Candy Crush, Internet.
Quand vous surfez sur Internet avec Safari, mais aussi quand vous avez des applications, des jeux graphiques, par
incroyable.
Exemple. Et ça bloque même, et c'est là où c'est encore plus surprenant, ça bloque même les publicités d'Apple. puisque finalement, Apple propose des publicités dans son nouveau service de news, hein, ça s'appelle Apple News d'ailleurs, qui n'est pas disponible en France, mais aux États-Unis. Et, pareil, les publicités aussi sont bloquées. Pourquoi?
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Apple, comment Apple a pu laisser passer un truc comme ça?
On ne sait pas. Des fois, il y a des applications qui passent entre les fourches codines des gens qui valident les applications sur l'App Store. Il est aussi possible qu'Apple, ce soit pas vraiment très grave de laisser passer ce genre d'application, puisqu'on rappelle que pour Apple, le plus important, c'est de vendre du matériel et non pas de vendre comme Google,
et
par exemple, des services derrière.
Et c'est vrai que là, bon, ils se mettent plein de gens à dos, hein, évidemment.
Oui.
Les Google, etc. Mais
le monde de la presse aussi, évidemment.
Mais cela dit, ils en tirent quand même une bonne image parce que ça prouve qu'ils sont quand même assez ouverts.
Exactement.
À des applications qui sont, un petit peu. Un petit peu étonnante, quoi, on va dire.
Et qui finalement servent leurs clients.
Voilà, qui servent leurs clients.
Parce que leurs clients sont finalement des gens qui achètent de l'iPhone ou de l'iPad, etc. Et ces applications-là qui bloquent les pubs servent leurs clients.
Voilà, étonnant. Et elle s'appelle comment, cette appli?
Elle s'appelle Bean.
Bean.
Voilà, tout simplement.
Et on peut la télécharger aujourd'hui?
On peut la télécharger. Je ne suis pas sûr qu'elle soit disponible sur le store français. Par contre, je crois qu'il faut aller sur le store américain.
Sur le store américain. Merci beaucoup, Eric.
Merci.
Eric Le Bourlou, donc, rédacteur en chef du pôle actu de 01net.com. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. La suite est la fin de l'atelier avec le crash test d'Antoine Cyr dans une minute. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Le crash test d'Antoine Cyr dans un instant sur BFM Business dans cet atelier numérique pour terminer ce rendez-vous dédié aux nouvelles techno. Mais auparavant, c'est notre rendez-vous de l'alphabet du numérique avec vous, Lila Megraoua. Et cette semaine, on va s'intéresser à la puce.
Oui, nom d'une puce, François, parce que ça me gratte. Hein. Ça me gratte à l'RFID. Et pour cause, j'étais au congrès du CNRFID, qui est un grand raout qui a réuni à Marseille à la fois les opérateurs, les fabricants de solutions sans contact, dit RFID ou NFC, et également quelques chercheurs. Les objets connectés et leur application dans l'industrie, la ville, le magasin et la santé étaient bel et bien à l'honneur. Alors, une fois n'est pas coutume, le smart avait un sens, pratique et concret. Ça allait de la puce alliée du magasin en améliorant la gestion de son stock, de l'inventaire, à la puce alliée de l'univers médical. Prenez l'exemple de la poche de sang connectée. On avait également la marque Rémy Martin qui a même présenté une bouteille de spiritueux un peu rigolote, puisqu'elle est connectée, elle devrait être lancée en Chine. Cette bouteille était un peu pensée comme comme certificat d'authenticité, à savoir qu'elle est capable, grâce à un système RFID, de rapporter à votre appli Rémy Martin et au fabricant donc, quand et si vous avez ouvert la bouteille. Bref, vous l'avez bien compris, quantité d'applications qui ne démérite pas. Mais j'aimerais vous parler d'une start-up dont l'approche m'a absolument épatée, la start-up Bispoon. Alors, cette start-up est spécialisée dans la géolocalisation indoor de haute précision, à savoir que sa solution est en mesure de mesurer des distances au kilomètre avec une précision au centimètre. Tout ça en traversant n'importe quelle surface, mur compris, et ce de manière très fiable, contrairement à un beacon qui, lui, peut pêcher dans certaines situations. Alors, le système, pour faire bref, envoie des impulsions très brèves et mesure le temps mis par le signal pour faire un aller-retour entre un émetteur et un récepteur, ce qui lui permet de savoir très précisément où se trouve l'objet pucé. Le beacon, lui, informe, notifie de sa localisation par grâce à la puissance de l'émetteur. Donc la précision de localisation est, somme toute, relative. Imaginez l'iBeacon enfermé dans un placard. Pour la puissance de l'émetteur, on repassera. Donc Bispoon et le Leti intègrent cette technologie qu'on appelle de l'IRUWB sur une seule puce. Et ça, en soi, c'est absolument révolutionnaire. Et les applications sont multiples. Le champ du sport, l'usine 3.0, les drones, les robots, l'agriculture. Vous l'avez compris, les champs d'application sont absolument infinis. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est français. Moi, je dis cocorico.
Merci beaucoup, Lila Megraoua. Et place maintenant à notre crash test. Antoine, vous allez partir d'un mot commun qu'on emploie évidemment tous les jours plusieurs fois dans la journée. C'est vrai, vous êtes dans une discussion comme ça entre amis. Assurbanipal.
Assurbanipal.
C'est quelque chose qu'on emploie régulièrement.
Vous parlez rarement d'Assurbanipal.
Très rarement, c'est vrai.
D'accord. Alors déjà, ça s'écrit Assurbanipal.
D'accord.
Ça se dit Assurbanipal, mais aujourd'hui on...
Il n'y a pas de O.
C'est-à-dire que, en fait, il y avait un O autrefois, mais maintenant on a adopté une espèce d'écriture internationale, oui. Vous savez, et donc il y a pas mal de mots dans lesquels il y avait OU à la française, qui sont devenus
U.
Voilà. Bon. Et donc.
Donc c'est Assurbanipal.
Assurbanipal.
Avec un seul S.
Voilà.
Parce que quand vous dites assur, on dirait qu'il y en a trop quatre de S.
Et en fait, Assurbanipal, est quand même quelqu'un qui devrait être relativement cher aux geeks, que nous représentons dans cette émission, puisque il a été le dernier grand souverain de l'Assyrie antique, l'Assyrie, qui d'ailleurs n'est pas très loin de la Syrie, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mmh. Et donc la Syrie est finalement, en gros, le pays qui a inventé l'écriture, la culture, le brave Assurbanipal. Enfin, on va voir d'ailleurs qu'il n'était pas si brave.
Pas si brave que ça. À mon avis, il a dû trancher deux trois trucs quand même. Non,
il a dû trancher. Ouais.
Et pas du jambon.
Mais bon, il avait quand même ce brave. Je peux pas l'empêcher.
Oui. Mais enfin, ce brave, voilà. Ça va au-delà.
Mais
de...
vous allez voir, il a aussi un versant brave.
D'accord.
Enfin bon, il a créé une bibliothèque qui était une bibliothèque tout à fait étonnante. Apparemment, de 20 000 tablettes à l'époque, il n'y avait pas des livres, mais il y avait déjà des tablettes.
Ah oui.
Donc c'est pour ça que Assurbanipal a quelque chose de geek. C'est parce qu'il a quand même été le premier souverain à avoir une bibliothèque dans laquelle il y avait 20 000 tablettes. Bon,
d'accord.
Ces 20 000 tablettes, évidemment.
Il y avait les 10 commandements dans ces 10 tablettes ou pas?
Ah, pas encore.
Non. Pas encore. Ça arrivait plus tard.
C'est après. Mmh. Mais elles étaient moins interactives que des tablettes Apple ou Samsung, pour ne pas les nommer. Elles étaient quand même.
C'était des tablettes.
C'était quand même des tablettes. Voilà. Bon. Alors, ce brave donc Assurbanipal, qui n'était pas si brave
que ça,
devrait aussi être un souverain apprécié des assureurs, puisque donc il s'appelait Assurbanipal. Et d'ailleurs, Assurbanipal, ça veut dire en assyrien, parce qu'évidemment je parle couramment assyrien, mais ça, l'avantage, c'est que sur Internet, on trouve des dictionnaires franco-assyriens
très facilement,
comme s'il en pleuvait. Et donc, Assurbanipal, ça veut dire le dieu Assur, a fait un autre fils, ou bien Assur est le créateur d'un héritier. Donc moi, je trouve qu'avec un nom aussi majestueux qui commence par Assur, voilà, donc le gars, il a fait 20 000, il avait 20 000 tablettes, il s'appelle Assur, donc normalement, s'il n'est pas plus ou moins le dieu des gars qui font de l'assurance sur Internet, franchement,
ouais.
C'est quand même un peu à
c'est
ce...
Pas
voilà, c'est... Bref. Et donc, alors, ce brave donc Assour Manipal,
ça fait trois fois. Ce brave.
Tout à fait.
Vous l'aimez beaucoup en tout cas.
Je l'aime beaucoup. Il a eu un règne qui a été marqué par des guerres incessantes. Il a fait la guerre à son frère qui s'appelait Shamash Shumukin.
Ah oui.
Peut-être d'ailleurs parce qu'il trouvait que son nom était trop difficile.
Voilà,
à
c'est
prononcer,
ça.
Hein, qui était dont son frère était roi de Babylone et donc ils se sont fait la guerre. Il a détruit la ville égyptienne de Thèbes en 663 avant Jésus-Christ. Il a dominé la Phénicie, l'Arménie, une grande partie de l'Arabie. Donc c'était quand même un souverain à la fois puissant.
Alors il faisait peut-être preuve de bravoure, mais n'était pas forcément très brave.
Non,
alors.
Parce qu'il a il écrasait d'une main de fer les insurrections. Il était il était quand même assez assez dictatorial.
Fallait pas l'embêter trop longtemps.
Fallait pas embêter Assour Manipal trop longtemps. Voilà. Et alors justement, à propos de pas l'embêter trop longtemps, il avait Assour Manipal, il a une caractéristique qui est que les Grecs le connaissaient sous le nom de Sardanapalos. Oui. Forme latine Sardanapalus et donc c'est devenu en France le mot Sardanapale et le mot Sardanapale est presque un nom commun. D'ailleurs, si vous regardez, par exemple, si vous êtes lecteur de Tintin, de temps en temps, vous avez quand le capitaine Haddock traite les gens de Bachibouzouk, de Moulagaufre,
etc. Exactement, oui.
Il les traite aussi de temps en temps de Sardanapale.
Ah oui, tiens, je m'en souviens pas de ça.
Absolument, si. Il y a des. Alors, je saurais pas vous dire dans quel album, mais il y a des gars qui se font traiter de Sardanapale. Et donc, le Sardanapale, c'est le symbole d'un homme puissant menant une vie luxueuse et dissolue, et même d'ailleurs dans certains dans certaines interprétations, du coup, par rapport aux critères de l'époque, Sardanapale est devenu aussi le symbole d'un roi un peu efféminé. Enfin, c'est une il y a une évolution donc de ce terme Sardanapale qui vient donc de Sardanapalos en grec et de Sardanapalus en latin. Et puis alors, il y a un tableau de légende qui est un des grands tableaux, y compris au sens propre, parce qu'il mesure 3,92 m sur 4,96 m. Donc là, on a quitté un peu le monde des tablettes pour atteindre le monde du YouTube de l'époque. Donc c'est Eugène Delacroix. Qui peut être vu au Louvre. Donc le tableau fait 3,92 m sur 4,96 m et il s'appelle La mort de Sardanapale.
Ah,
voilà.
Oui, parce que ce monsieur a eu quand même une fin,
obligatoirement. Eh bien, la scène représentée par Delacroix raconte l'épisode dramatique de la mort de Sardanapale, dont la capitale est assiégée sans aucun espoir de délivrance, et qui décide de se suicider en compagnie de ses esclaves, d'une part, et de ses favorites, d'autre part, après avoir...
De ses favorites ?
De ses favorites, oui.
Ah oui,
oui c'est pas...
Il en avait plusieurs.
J'ai pas compté les favorites de Sardanapale, mais il en avait
quelques-unes.
Il en avait quelques-unes, voilà. Et donc, il décide de se suicider en compagnie de tous ces braves gens. C'est intéressant parce que c'est un tableau qui est accompagné d'une légende fournie par Delacroix qui dit « Les révoltés l'assiégèrent dans son palais, couché sur un lit superbe au sommet d'un immense bûcher. Sardanapale donne l'ordre à ses esclaves et aux officiers du palais d'égorger ses femmes, ses pages, jusqu'à ses chevaux et ses chiens favoris. Aucun des objets qui avaient servi à ses plaisirs ne devrait lui survivre. » Et donc Lord Byron,
tout le monde doit être tué, etc. Et
voilà.
Lui après on le tue
et lui il se tue. Voilà.
D'accord.
Voilà. Et puis alors il y a un drame du poète anglais Lord Byron qui s'appelle Sardanapalus qui aurait d'ailleurs été le texte dans lequel Delacroix dont le tableau La mort de Sardanapale peut-être vu au Louvre aurait inspiré donc ce tableau.
Belle histoire.
Voilà.
Triste, mais bon.
Bah oui,
c'est comme ça. Merci Antoine pour ce crash test. Ce crash test termine cet atelier numérique bien évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Pendant ces 2 heures, bon week-end à vous toutes et à vous tous. On sera là bien sûr samedi prochain 16-18, bien évidemment. Salut à tous.